bonjour à tous ceux que je n'ai pas encore salués. Nous venons de chanter que la mort est asservie au prince de la vie. Amen. Et c'est de ça qu'on va parler maintenant, là, en considérant le chapitre 11 de l'évangile de Jean. Évangile de Jean, chapitre 11. Jean l'apôtre nous a rapporté dans les chapitres qui précèdent quelques fameux « je suis » de Jésus. « Je suis le pain de vie » en Jean 6, après la multiplication des pains. « Je suis l'eau de la vie » promise à la femme samaritaine rencontrée au puits de Sichar. « Je suis la lumière du monde et la lumière de la vie » à l'occasion de la fête des tabernacles où on illuminait Jérusalem. Et maintenant, il nous présente un dernier « je suis » accompagné d'un dernier miracle signe de Jésus. « Je suis la résurrection et la vie ». Alors, nous allons lire chapitre 11. Je lis dans la version du semeur. Dans le village de Béthanie vivaient deux sœurs, Marthe et Marie, ainsi que leur frère Lazare. Marie était cette femme qui, après avoir répandu une huile parfumée sur les pieds du Seigneur, les lui essuya avec ses cheveux. Lazare, son frère, tomba malade. Les deux sœurs envoyèrent donc quelqu'un à Jésus pour lui faire dire « Seigneur, ton ami est malade ». Quand Jésus apprit la nouvelle, il dit « Cette maladie n'aboutira pas à la mort, elle servira à glorifier Dieu. Elle sera une occasion pour faire apparaître la gloire du Fils de Dieu. » Or Jésus était très attaché à Marthe, à sa sœur et à Lazare. Après avoir appris qu'il était malade, il resta encore deux jours à l'endroit où il se trouvait. Puis il dit à ses disciples, retournant en Judée. « Maître, lui dirent-ils, il n'y a pas si longtemps, ceux de la Judée voulaient te tuer à coups de pierre, et maintenant tu veux retourner là-bas ? » « N'y a-t-il pas 12 heures dans une journée ? » répondit Jésus. « Si l'on marche pendant qu'il fait jour, on ne bute pas contre les obstacles, parce qu'on voit clair. Mais si l'on marche de nuit, on trébuche, parce qu'il n'y a pas de lumière. » Après avoir dit cela, il ajouta, « Notre ami Lazare s'est endormi, je vais le réveiller. » Sur quoi les disciples lui dirent, « Seigneur, s'il dort, il est en voie de guérison. » En fait, Jésus voulait dire que Lazare était mort. Mais les disciples avaient compris qu'il parlait du sommeil ordinaire. Alors il leur dit clairement, « Lazare est mort. » Et je suis heureux, à cause de vous, de n'avoir pas été là-bas à ce moment-là, car cela contribuera à votre foi. Mais maintenant, allons auprès de lui. Thomas, surnommé le jumeau, dit alors aux autres disciples, « Allons-y nous aussi pour mourir avec lui. » À son arrivée, Jésus apprit qu'on avait enseveli Lazare depuis 4 jours déjà. Béthanie était à moins de 3 kilomètres de Jérusalem. Aussi beaucoup de gens étaient-ils venus chez Marthe et Marie pour leur présenter leurs condoléances à l'occasion de la mort de leur frère. Quand Marthe apprit que Jésus approchait du village, elle alla à sa rencontre. Marie, elle, resta à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais je sais que maintenant encore, tout ce que tu demanderas à Dieu, il te l'accordera. » « Ton frère reviendra à la vie, » lui dit Jésus. « Je sais bien, » répondit Marthe, « qu'il reviendra à la vie au dernier jour, lors de la résurrection des morts. » « Je suis la résurrection et la vie, » lui dit Jésus. « Celui qui place toute sa confiance en moi vivra, même s'il meurt. Et tout homme qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?»« Oui, Seigneur, » lui répondit-elle, « je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, celui qui devait venir dans le monde. » Là-dessus, elle partit appeler sa sœur Marie. Elle est en prise à part, elle lui dit, « Le maître est là, il te demande. » À cette nouvelle, Marie se leva précipitamment et courut vers Jésus. Il n'était pas encore entré dans le village, il était resté à l'endroit où Marthe l'avait rencontré. Ceux qui se trouvaient dans la maison avec Marie pour la consoler, la virent se lever brusquement et sortir. Ils la suivirent, pensant qu'elle allait au tombeau pour y pleurer. Marie parvint à l'endroit où était Jésus. Dès qu'elle le vit, elle se jeta à ses pieds et lui dit « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » En la voyant pleurer, elle et ceux qui l'accompagnaient, Jésus fut profondément indigné et ému. « Où l'avez-vous enterré ? » demanda-t-il. « Viens, Seigneur, lui répondirent-ils, tu verras. » Jésus pleura. Alors tous dirent, « Voyez comme il l'aimait !» Quelques-uns remarquaient, « Il a bien rendu la vue à l'aveugle, n'aurait-il pas pu empêcher que Lazare meure ?» Une fois de plus, Jésus fut profondément bouleversé. Il arriva au tombeau. C'était une grotte dont l'entrée était fermée par une pierre. « Enlevez la pierre, dit Jésus. » Marthe, la sœur du mort, dit alors, « Seigneur, il doit déjà sentir, cela fait 4 jours qu'il est là. » Jésus lui répondit, « Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» On ôta donc la pierre. Alors Jésus, tournant son regard vers le ciel, dit, « Père, tu as exaucé ma prière et je t'en remercie. Pour moi, je sais que tu m'exauces toujours, mais si je parle ainsi, c'est pour que tous ceux qui m'entourent croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Cela dit, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors de là !» Et voici que le mort sortit du tombeau. Il avait les pieds et les mains entourés de bandes de lin, le visage recouvert d'un linge. Jésus dit à ceux qui étaient là, « Déliez-le de ses bandes et laissez-le aller. » En voyant ce que Jésus avait fait, beaucoup de ceux qui étaient venus auprès de Marie crurent en lui. Quelques-uns cependant s'en allèrent trouver les pharisiens et leur rapportèrent ce que Jésus avait fait. Alors les chefs des prêtres et les pharisiens convoquèrent le grand conseil. « Qu'allons-nous faire ? » disaient-ils. « Cet homme accomplit trop de signes miraculeux. Si nous le laissons faire, de la sorte, tout le monde va croire en lui. Alors les Romains viendront et détruiront notre temple et notre nation. » L'un d'eux, qui s'appelait Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là, prit la parole. « Vous n'y entendez rien, leur dit-il, vous ne voyez pas qu'il est de notre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple, pour que la nation ne disparaisse pas tout entière. » Or, ce qu'il disait là ne venait pas de lui, mais il était grand prêtre cette année-là, et c'est en cette qualité qu'il déclara sous l'inspiration de Dieu qu'il fallait que Jésus meure pour son peuple. Et ce n'était pas seulement pour son peuple qu'il devait mourir, c'était aussi pour rassembler tous les enfants de Dieu dispersés à travers le monde et les réunir en un seul peuple. C'est ce jour-là que les chefs des Juifs prirent la décision de faire mourir Jésus. Jésus cessa donc de se montrer en public. Il partit de là et se retira dans la région voisine du désert, dans une ville nommée Éphraïm. Il y passa quelque temps avec ses disciples. Comme la fête de la Pâque approchait, beaucoup de gens de tout le pays montaient à Jérusalem avant la fête pour se soumettre aux cérémonies rituelles de purification. Ils cherchaient donc Jésus et se demandaient entre eux, dans la cour du temple, « Qu'en pensez-vous ? Croyez-vous qu'il viendra à la fête ?» Or, les chefs des prêtres et les pharisiens avaient donné des instructions. Si quelqu'un savait où se trouvait Jésus, il devait les prévenir pour qu'on l'arrête. Au chapitre précédent, Jésus a dû se retirer en Bethanie, en Transjordanie, en raison de l'hostilité des Juifs qui avaient essayé de se saisir de lui dans le temple. Mais il leur avait échappé. Dans ce chapitre 11 que nous venons de lire, il apprend la mort de son ami Lazare, le frère de Marthe et de Marie, qui habitait dans un village nommé Bethanie, à moins de 3 km de Jérusalem. Le prénom Marie était très répandu à cette époque, comme il est d'ailleurs aussi maintenant. Aussi, Jean précise-t-il qu'il s'agit de la Marie qui a versé sur les pieds de Jésus un parfum extrêmement coûteux, épisode qu'il va raconter dans le chapitre suivant, au chapitre 12, et qu'on trouve aussi dans les synoptiques. Ce sont ces deux sœurs de Lazare qui lui font savoir la maladie de leur frère, avec cette expression touchante lorsqu'on traduit le grec littéralement, « Celui que tu aimes est malade ». Lorsqu'il apprend cette nouvelle, Jésus déclare à ses disciples, probablement peut-être aussi aux messagers, cette maladie n'aboutira pas à la mort. Elle servira à glorifier Dieu. Elle sera une occasion pour faire apparaître la gloire du Fils de Dieu. Jésus avait coutume de se désigner comme le Fils de l'homme. C'est comme cela, par exemple, qu'il s'est présenté à l'aveugle de naissance qu'il avait guéri au chapitre 9. Là, il utilise le titre de Fils de Dieu, ce titre même qui provoque l'hostilité des Juifs. La gloire du Père et la gloire du Fils seront mises en évidence à l'occasion de la maladie de Lazare. Pour Jésus, cette maladie n'aboutira pas à la mort. On pourrait penser, un peu superficiellement, qu'il s'est trompé. Mais cette parole est volontairement ambiguë, comme vous avez pu le noter. Jean nous précise au verset 5 que Jésus était très attaché à Marie, à sa sœur et à Lazare. Et juste après avoir dit cela, il nous apprend que Jésus, au lieu de se mettre immédiatement en marche pour Béthanie, pour aller au secours de Lazare, reste 2 jours de plus là où il est, c'est-à-dire en Bethanie, à environ 150 kilomètres au nord-est de Jérusalem. Au verset 7, il dit à ses disciples, « Retournons en Judée. » Alors, stupéfaction des disciples. Il n'y a pas si longtemps, les Juifs de Jérusalem voulaient te tuer et tu veux y retourner? La réponse de Jésus est comme souvent assez mystérieuse. N'y a-t-il pas 12 heures dans une journée? Si l'on marche pendant qu'il fait jour, on ne bute pas contre les obstacles parce qu'on voit clair. Mais si on marche de nuit, on trébuche parce qu'on n'a pas de lumière. Jésus va revenir à ce thème au chapitre suivant, chapitre 12, verset 35. Je vous le lis. Il dit à ses disciples, « La lumière est encore parmi vous pour un peu de temps. Marchez tant que vous avez de la lumière pour ne pas vous laisser surprendre par les ténèbres. Car celui qui marche dans les ténèbres ne sait pas où il va. Tant que vous avez la lumière, croyez en la lumière afin de devenir vous-même des enfants de lumière. » Parole là aussi un peu mystérieuse. Au niveau littéral, au Moyen-Orient et à cette époque, on pouvait travailler ou marcher que 2 jours. Pour ceux qui, comme moi et d'autres, sont allés à Madagascar, on l'a expérimenté de façon évidente. Dès 6 heures du soir, on n'y voit plus rien. Et on a bien besoin de nos frontales pour ne pas trébucher sur les obstacles d'hiver. Mais Jésus fait allusion là à la marche du Fils de Dieu et par association de ses disciples. Jésus est à moindre degré ses disciples, court un grand danger en retournant en Judée, où les Juifs cherchent à le capturer. Il veut dire par cette parole un peu énigmatique que la théocratie juive, le gouvernement juif religieux, qui lui est hostile, ne pourra rien faire tant que le Père ne l'aura pas permis et que donc, tant que la nuit n'est pas tombée, il doit aller jusqu'au bout de sa mission. Ce temps de son ministère terrestre est celui de la lumière divine éclairant ce monde de ténèbres. Rappelez-vous Jean 1, verset 4, le prologue de cet évangile. Jean disait, « En lui résidait la vie, et cette vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas étouffée. » Dans l'évangile de Luc, au chapitre 22, verset 53, Jésus dit à la troupe venue l'arrêter de nuit au mont des Oliviers, « J'étais chaque jour avec vous dans la cour du temple, et personne n'a mis la main sur moi. Mais maintenant, c'est votre heure, et les ténèbres vont exercer leur pouvoir. » Jésus veut donc faire comprendre à ses disciples qu'il est urgent qu'ils terminent le travail que le Père lui a donné d'accomplir sur cette terre, cette lumière qui luit dans les ténèbres, et que eux-mêmes profitent de cette lumière tant qu'elle est avec eux, en sa personne. Au verset 11, Jésus continue à cultiver à dessein l'ambiguïté. Il dit à ses disciples, « Notre ami Lazare s'est endormi, je vais le réveiller. » Réaction des disciples, « S'il s'est endormi, c'est qu'il va mieux. Il commence sa convalescence. » Alors il les détrompe. « Il s'est endormi du sommeil de la mort, mais je vais le réveiller. » Et il ajoute qu'il est heureux de ne pas avoir été à Béthanie au moment de la mort de Lazare, afin que ce dernier signe miracle auquel ils vont assister contribue à fortifier leur foi. Verset 16, on a la réaction de Thomas, le rationnel, qui a besoin de voir pour croire. Sa réaction est plutôt sympathique et touchante. Allons-y nous aussi pour mourir avec lui. » Mais nous savons, par la suite du récit, que tous les disciples ont abandonné Jésus lorsqu'il a été pris. Verset 17. Jésus arrive à Béthanie. Lazare est depuis 4 jours déjà dans le tombeau. Ces 4 jours s'expliquent par le délai de 2 jours avant que Jésus ne se mette en marche et le temps du voyage, 150 kilomètres, depuis la Bethanie jusqu'à Béthanie. Beaucoup d'amis de Marthe et de Marie sont venus de Jérusalem pour apporter leurs condoléances à la famille. Au verset 20, quand Marthe apprend que Jésus arrive, elle court à sa rencontre. « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Marie dira exactement la même chose lorsqu'à son tour, elle viendra au devant de Jésus. Mais Marthe ajoute cette parole pleine d'espoir. « Mais je sais que maintenant encore, tout ce que tu demanderas à Dieu, il te l'accordera. » Jésus avait guéri tant de malades. S'il avait été présent, il aurait certainement guéri aussi son ami. Mais on voit dans cette parole de Marthe une foi magnifique. « Je sais que maintenant encore, tout ce que tu demanderas à Dieu, il te l'accordera. » Elle croyait sans l'ombre d'un doute à ce que Jésus n'a cessé d'enseigner dans cet évangile, que tout ce qu'il faisait, il le faisait dans une parfaite communion et soumission à son Père. Verset 23, de nouveau une parole volontairement ambiguë de Jésus. « Ton frère ressuscitera. » Marthe a une réponse théologique. « Je sais bien qu'il reviendra à la vie au dernier jour, lors de la résurrection. » Elle montre par là sa foi dans la résurrection finale des morts, au dernier jour, c'est-à-dire à la fin de l'ère présente. Marthe, comme beaucoup de juifs de son époque, croyait à la résurrection des morts. D'autres n'y croyaient pas, comme les Sadducéens, un parti juif influent qui avait la haute main sur le temple de Jérusalem, et parmi lesquels étaient choisis les prêtres, censés enseigner le peuple. Le verset 25 est le verset central de ce chapitre. La leçon que Jésus veut enseigner à Marthe et au-delà d'elle à tous ceux qui croiront en lui. « Moi, je suis la résurrection et la vie. » Ce n'est pas seulement la doctrine, certes biblique, de la résurrection finale des morts au dernier jour. C'est le fait que Jésus, dans sa personne, est la résurrection et la vie. C'est lui, le Fils de Dieu, qui est détenteur de la vie et qui la communique aux siens dès à présent et même au-delà de leur mort. C'est d'ailleurs ce qu'il dit ensuite à Marthe. « Celui qui place toute sa confiance en moi vivra, même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Et il nous pose la question, « Croyez-vous cela ?» Jésus demande à Marthe d'aller au-delà d'une connaissance théorique de la doctrine de la résurrection finale des morts. D'une part, il donne la vie aux vivants dès qu'ils croient en lui, et d'autre part, cette vie continue même au-delà de la mort. Parce que notre vie, à nous qui avons foi en lui, est liée à la sienne. Verset 27. La réponse de Marthe montre qu'elle ajoute foi aux paroles qu'elle vient d'entendre. Elle confesse, comme Pierre l'avait fait aussi, que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, celui qui devait venir dans le monde. Alors elle va faire prévenir sa sœur que le Maître est là et qu'il l'appelle. Marie accourt. Les amis venus de Jérusalem pensent qu'elle court au tombeau pour y pleurer. Elle aussi exprime à Jésus son regret qu'il n'ait pas été là pour guérir son frère avant qu'il ne meure. Verset 33, en la voyant pleurer, elle et ceux qui l'accompagnaient, Jésus fut profondément indigné et ému. Le verbe grec traduit ici par « profondément indigné et ému » est utilisé par Jean une deuxième fois au verset 38. Son sens est difficile à cerner. Il comporte les notions d'émotion intense, mêlées de tristesse et, plus surprenant, de colère. Jésus demande où Lazare a été mis. On lui montre le tombeau de Lazare. Il pleure. Les gens disent « Voyez comme il l'aimait ». On voit là, je pense, à la fois la pleine humanité de Jésus qui pleure avec ceux qu'il aime, et la colère indignée du Fils de Dieu devant les ravages du prince des ténèbres. La maladie, la mort, la corruption, les larmes. Le même Jean, qui nous donne ce récit, hein, entendra plus tard dans une vision une forte voix venant du trône de Dieu disant « Il essuiera toutes larmes de leurs yeux. La mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni plainte, ni souffrance. Car ce qui était autrefois a définitivement disparu. » Jean a entendu cette voix alors qu'il était en déportation sur l'île de Patmos dans une vision. Il nous rapporte ça en Apocalypse 21, verset 4. Verset 37. Certains de ceux qui assistent à la scène font remarquer « Il a bien rendu la vue à l'aveugle. N'aurait-il pas pu empêcher que Lazare meure ?» Il aurait certainement pu. Mais tout ce texte montre que c'est volontairement qu'il ne l'a pas fait, afin de démontrer qu'il est, lui, le Fils de Dieu, la résurrection et la vie. Il va le démontrer par le dernier miracle-signe rapporté dans cet évangile. La résurrection d'un mort enterré depuis 4 jours, qui sent déjà, comme le prévient Marthe, attestant par là que la corruption a déjà fait son œuvre. Il existait à l'époque une croyance populaire que l'esprit du défunt ne quittait vraiment son corps qu'au bout de 3 ou 4 jours. Lazare était bien mort. Il ne s'agissait pas de la simple réanimation d'un mourant. Vous savez peut-être qu'il existe des théories cherchant à expliquer la disparition du corps de Jésus de son tombeau. L'explication des autorités juives, c'est que ce sont ses disciples qui ont enlevé son corps, malgré la garde mise en place à leur demande sur l'ordre de Pilate. Mais certains ont imaginé que Jésus était seulement dans le coma. On ne lui avait pas brisé les jambes, comme aux autres suppliciés, et qu'il s'est réveillé de son coma une fois mis au tombeau. L'incrédulité foncière de la créature tombée dans le péché trouvera toujours de bonnes raisons de ne pas croire à la puissance de Dieu. Mais revenons à notre texte. Jésus fait enlever la pierre qui fermait l'ouverture du tombeau. Il tourne son regard vers le ciel et dit « Père, tu as exaucé ma prière et je t'en remercie. Pour moi, je sais que tu m'exauces toujours, mais si je parle ainsi, c'est pour que tous ceux qui m'entourent croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Une prière publique pour que tous les gens qui sont là l'entendent. Tu as exaucé ma prière. Jésus sait que le Père l'a exaucé, ce qui signifie que lorsqu'il dit cela, Lazare vit déjà. Et maintenant, il appelle Lazare. Un ordre bref, avec une voix forte. Lazare, sors de là! Si on traduit littéralement le grec, d'euro, exo, ce qui veut dire ici, dehors. En Jean 5, 25, nous avons lu « Oui, vraiment, je vous l'assure, l'heure vient et elle est déjà là, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu et tous ceux qui l'auront entendu vivront. » Alors Lazare sort du tombeau en costume de mort, les mains et les pieds liés de bandes et le visage couvert d'un linge. Devant la stupéfaction des assistants, Jésus est obligé de les ramener à la réalité. Il est bien vivant, là c'est moi qui rajoute, hein. Déliez-le de ses bandes et laissez-le aller. Jésus vient de prouver que c'est en lui que se trouve la vie, même au-delà de la mort. Il est capable de ramener à la vie un corps déjà en état de décomposition. Cette même puissance ressuscitera nos corps, quel que soit leur état, lorsqu'il nous rappellera à la vie. Verset 45. Comme toujours, les réactions des gens aux actes de Jésus sont diverses. Certains, déjà, avant la résurrection de Lazare, avaient estimé que Jésus aurait bien pu le guérir, comme il avait fait pour l'aveugle-né, avant qu'il ne meure. D'autres, ayant vu ce miracle signe inouï, crurent en Jésus. Hein, ça nous est rapporté. D'autres, enfin, allèrent trouver les pharisiens pour leur rapporter ce que Jésus avait fait. Le texte ne nous dit pas si leurs intentions étaient malveillantes, mais on peut le penser, compte tenu de l'hostilité affichée de ces derniers envers Jésus. Et donc on assiste ensuite, dans les versets 47 à 53, à la réunion du grand conseil convoqué par les prêtres et les pharisiens. Il pose le problème. Si nous laissons faire cet homme, tout le monde va croire en lui. Mais de cette hypothèse, ils déduisent que les Romains détruiront alors leur temple et leur nation, ou leur lieu au sens littéral, dans les traductions littérales. Ça veut dire le temple. Cette crainte était en partie fondée. Un soulèvement messianique populaire était effectivement de nature à inquiéter les Romains qui, jusque-là, octroyaient aux Juifs une certaine autonomie de gestion de leurs affaires, à condition qu'ils ne fassent pas trop de vagues, susceptibles de provoquer une réaction de l'empereur. Mais la raison profonde de cette docte assemblée, c'était la crainte, leur crainte de perdre leur prestige auprès du peuple, et peut-être même leur pouvoir. Car c'était le préfet romain qui nommait et destituait à sa guise les grands prêtres. Et là, on assiste à un événement curieux, la prophétie, malgré lui, du grand prêtre Caïphe. Notre texte dit expressément, il prophétisait qu'il fallait que Jésus meure pour son peuple, et ce n'était pas seulement pour son peuple qu'il devait mourir, c'était aussi pour rassembler tous les enfants de Dieu dispersés à travers le monde et les réunir en un seul peuple. Cette prophétie est totalement vraie. Mais elle ne venait pas de lui, nous dit Jean. Les sentiments de Caïphe envers Jésus étaient tout aussi hostiles que ceux de ses collègues. Cela nous montre que Dieu peut faire prophétiser des choses justes à un ennemi. Quel exemple frappant de la souveraineté absolue de Dieu sur toute chose. Alors verset 53, c'est ce jour-là, ce jour de résurrection, qu'ils prirent la décision de faire mourir Jésus. Jusque-là, ils avaient essayé en vain de l'arrêter, mais là, ils ont pris la décision officielle et formelle de le faire mettre à mort. Celui qui est la lumière du monde et qui vient de prouver qu'il est la résurrection et la vie va être la victime consentante du prince des ténèbres et de sa mort dans quelques jours. Dans cette décision du Grand Conseil, la théocratie juive a montré à qui elle obéit en réalité, alors qu'elle prétend obéir à Dieu. Jésus est obligé à nouveau de s'esquiver à l'écart de Jérusalem. Il séjourne quelque temps avec ses disciples à Éphraïm, probablement l'Éphron de l'Ancien Testament, qui correspond au village actuel moderne de Et Taïbé, à une vingtaine de kilomètres de Jérusalem. Assez loin pour être, au moins pour un temps, en sécurité, tout en étant suffisamment proche de la ville pour pouvoir participer à sa dernière Pâque, à l'heure fixée par le Père. La foule des pèlerins venus à Jérusalem se demande si Jésus va venir à cette Pâque. Les chefs des prêtres et les pharisiens de leur côté donnent des instructions pour que toute personne qui sait où se trouve Jésus le leur dise afin de procéder à son arrestation. Est-ce qu'on peut lancer le PowerPoint ? Les Sadducéens, parmi lesquels étaient recrutés les prêtres, ne croyaient pas à la résurrection. Certains membres de l'église de Corinthe non plus. Hein, on voit ça dans la première aux Corinthiens, chapitre 15. Qu'en est-il des chrétiens actuels ? J'ai un ami qui m'a dit, un ami qui est catholique, hein, qui m'a dit que parmi le peuple catholique, à peu près la moitié des gens croient à la résurrection. Bon, je n'ai pas vérifié les sources. Hein. Qu'en est-il de nous ? Ce texte de Jean 11 nous a-t-il convaincu que Jésus a le pouvoir de nous ressusciter corporellement ? On peut passer le suivant ? Au verset 25, Jésus a dit « Moi, je suis la résurrection et la vie. » Il a dit ça à Marthe. « Celui qui place toute sa confiance en moi vivra, même s'il meurt. » Ce verset est au futur. Il vivra. La condition ? Placer toute sa confiance en Jésus, plus littéralement, celui qui croit en moi. Si nous croyons en Jésus, pouvons-nous garder un doute quant à la réalité de notre résurrection future ? Et avons-nous le courage de témoigner à ceux que nous côtoyons de cette espérance ferme? Je crois qu'il y en a encore une, je ne sais plus. Oui. Et Jésus ajoute, « Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Celui qui vit, c'est celui qui croit en Jésus. La façon dont Jésus comprend les choses. Hein. Il vit parce qu'il est déjà ressuscité spirituellement. Vivre dans l'incrédulité, ce n'est pas vivre. Celui qui est déjà spirituellement ressuscité, c'est-à-dire né de nouveau à une nouvelle vie, ne mourra jamais. Il vit désormais une vie de résurrection et c'est pour cela qu'en réalité, il ne mourra jamais, même s'il meurt physiquement. Vivons-nous réellement et pratiquement une vie de résurrection? Qu'est-ce qui caractérise une vie de résurrection? Je crois que on l'a dit dans la première partie de notre culte. Voilà, que Dieu vous bénisse.